Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Le dossier Thomas Sankara, vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole ce matin, comme à chaque fois d'ailleurs que nous parlons de l'ancien président burkinabé. Et nous lançons le débat ce matin car la contre-expertise réalisée sur la dépouille présumée de l'ancien président burkinabé n'a pas permis d'identifier son ADN. Autrement dit, 30 ans après son assassinat, il n'y a pas de preuve génétique que le corps qui était dans la tombe présentée comme celle de Thomas Sankara soit bien le corps de l'ancien président. En tout cas, vous l'avez certainement entendu sur l'antenne de RFI, pour l'avocat de la famille Sankara, l'absence d'ADN n'empêchera pas la justice de suivre son cours normal. Je vous rappelle qu'une dizaine de personnes sont inculpées dans le cadre de ce dossier, dont l'ancien président déchu Blaise Compaoré, actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur la mort de Sankara? Nous vous posons la question ce matin. On en parle ensemble dans une trentaine de minutes. D'ici là, vous continuez évidemment à nous appeler ici à Paris, 33 9 693 693 70. De nombreuses réactions également sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Je vous le dis tous les matins, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Faites-le tout au long de la journée. On a évidemment besoin de connaître votre question avant de commencer cette émission pour contacter justement les experts, les correspondants, les envoyés spéciaux. Et pour commencer, nous avons une question sur le nouvel émissaire de l'ONU en Libye. On vous en a longuement parlé dans nos éditions hier. Bonjour Bintou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Kinshasa en République démocratique du Congo.
Oui, certainement.
On vous écoute.
Bon, un nouvel envoyé spécial de l'ONU pour la Libye vient d'être nommé par le secrétaire général de l'ONU, Anthony Guterres. Il s'agit du Libanais Ghassan Salamé. Après de multiples désaccords. Sur ce, je voudrais savoir comment expliquer les choix qui se portent sur cet ancien ministre de la Culture libanais. Nous savons que 5 émissaires de l'ONU se sont déjà succédés sans jamais parvenir à réussir leur mission. Comment va-t-il s'y prendre pour essayer de mettre fin au conflit en Libye?
Ouais, c'est vrai que Ghassan Salamé est le 6e envoyé spécial de l'ONU depuis le début de la crise libyenne. 6 émissaires en 6 ans. C'est dire si la tâche s'annonce compliquée pour l'ancien ministre libanais de la Culture. Bonjour Kader Abdelrahim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de la Libye. Et je signale aux auditeurs que vous avez publié aux éditions Erol, Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'État islamique. Visiblement, Kader Abdelrahim, le secrétaire général de l'ONU, a eu du mal à trouver un successeur à Martin Kobler. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une dizaine de personnes approchées avant que Ghassan Salamé donne son feu vert. On a un peu l'impression, en tout cas c'est mon sentiment, que personne ne voulait vraiment de ce poste.
Bah, il faut quand même rappeler qu'il y a un ancien premier ministre palestinien, Salam Fayyad, qui avait accepté au début de cette année, en janvier, et qui avait été retoqué par les États-Unis. Donc évidemment, à partir de là, les candidats putatifs étaient déjà beaucoup plus prudents, parce que c'est jamais agréable d'essuyer un échec alors qu'on se propose pour une médiation aussi compliquée. Il faut quand même avoir un certain nombre d'atouts et de compétences, ce qui visiblement n'était pas le cas de M. Kobler, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer en tant que tel.
Alors, vous allez dans un instant nous dire quels sont justement les atouts de Ghassan Salamé. On va pas retracer tout son curriculum vitae, mais c'est un ancien ministre de la Culture qui a quand même une sacrée expérience internationale.
Oui, absolument. Il faut rappeler qu'il a été présent en Afghanistan et puis en Irak, toujours pour l'ONU. Donc il a acquis une grande expérience dans la gestion de la crise et des conflits pour tenter de rapprocher les points de vue. Donc dans le cas libyen, évidemment, il a un certain nombre d'atouts dans sa manche et de cartes qu'il pourrait utiliser. Rappelons que Ghassan Salamé, c'est le flamboyant et prestigieux professeur de Sciences Po, qui s'est fait connaître précisément pour ses écrits et sa réflexion sur les systèmes politiques dans le monde arabe. Donc il a une approche quand même assez intéressante. Par ailleurs, Il a aussi, il est très bien introduit, notamment dans les pétromonarchies du Golfe. Il est très proche de certaines familles comme celle des Émirats et du Koweït. Donc je pense que c'est un atout très important lorsqu'on sait le rôle que jouent notamment les Émirats en Libye, qui livrent des armes à certaines factions. Mmh. Donc éventuellement, Hassan Salamé peut avoir l'oreille de la famille royale et des dirigeants émiratis. Et par ailleurs, il est également très proche et il a des relations amicales avec l'Ahdar Brahimi, qui est lui aussi un diplomate algérien chevronné, qui a été souvent émissaire dans des situations de crise et de conflit. Et donc ça lui permet d'être aussi introduit auprès de l'Algérie et du président Bouteflika, l'Algérie qui joue un rôle aussi éminent dans les tentatives de règlement politique de cette crise. Donc il a quelques atouts. Il a évidemment la confiance de M. Guterres, secrétaire général de l'ONU. Bien sûr. Il est franco-libanais. Donc je pense qu'il a les atouts, la compétence et la connaissance qui pourraient lui permettre de faire progresser ce dossier.
Il peut donc réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Quelle sera selon vous sa première mission? Essayer de mettre autour de la table tous les acteurs du conflit libyen, ou ce sera dans quelques mois?
Non, je pense que l'impératif absolu, c'est d'essayer de mettre autour d'une même table tous les protagonistes de la guerre civile qui se déroule en Libye, au moins dans un premier temps, pour faire cesser les combats et ramener la sécurité. Ça, c'est l'impératif absolu. Si on n'a pas ce prérequis, il sera très difficile d'envisager des négociations politiques. Il faut d'abord cesser le combat, faire taire les armes, et en ce sens, il peut aussi faire entendre raison à un nombre de pays qui sont très impliqués dans cette crise. Je pensais aux Émirats, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, qui jouent un rôle, au Qatar, qui joue un rôle dans cette guerre civile libyenne.
Merci beaucoup Kader Abdelrahim d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à Bintou qui nous appelait de Kinshasa. Et puis je rappelle votre ouvrage aux éditions Erol, Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'État islamique. Il est 10h17 à Paris, nous allons parler football maintenant. Alejandro Valente, le chef du service des sports d'RFI, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Une question sur Marco Verratti. Ismaïla est au téléphone, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au
Bonjour Alejandro Valente.
Vous êtes au Burkina Faso, on vous écoute.
Oui, je suis à Fada précisément.
À Fada, très bien. C'est à l'est de la capitale, de Ouagadougou.
Exactement.
On vous écoute.
Alors, les médias rapportent ces derniers temps que Marco Verratti a l'intention de quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone cet été. À quelques préoccupations. Le PSG n'étant pas vendeur, est-ce qu'il y a tout de même des chances que Marco Verratti puisse signer au FC Barcelone?
Alors on va déjà répondre à cette première question avec Alejandro Valente. C'est vrai que Marco Verratti a très très envie de quitter Paris, d'aller jouer au Barça. Le problème, c'est que le PSG n'a pas du tout envie qu'il s'en aille.
Bah oui, on est dans une période de bras de fer. Aujourd'hui, la une de l'équipe est consacrée à cette histoire, à Marco Verratti et à ses velléités de départ. La réponse est oui, il peut partir. Aucun contrat n'est indestructible. Donc
il est sous contrat jusqu'en 2021.
Voilà. Mais un contrat de travail, ça ne veut pas dire que les joueurs ne peuvent pas se libérer d'un contrat. Après, tout est question des négociations, des volontés de part et d'autre d'arriver de façon harmonieuse ou pas vers une issue. Évidemment, si Marco Verratti persiste et s'il force un peu son départ, par exemple en refusant de rejoindre le PSG à la fin de ses vacances, parce qu'actuellement il est en vacances à Ibiza.
La fin des vacances, c'est dans deux semaines, je crois, voilà, début juillet.
Le PSG reprend début juillet, mais les internationaux qui ont dû disputer des matchs récemment, au début du mois de juin, ont quelques jours supplémentaires, et on n'a pas encore une date officielle précise pour le retour de Marco Verratti. Donc les choses peuvent s'envenimer, peuvent traîner, et à ce moment-là, Barcelone pourrait s'interroger sur le bien fondé de cette piste, parce que Barcelone veut Verratti, parce qu'il est en train de reconstruire son milieu du terrain, mais il ne le veut pas à n'importe quel prix. Barcelone a une estimation d'environ 70-75 millions, ils veulent pas aller au-delà, en tout cas pas beaucoup plus. Et puis, ils veulent régler ce problème rapidement. Ils n'ont pas envie de passer l'été à voir si Verratti vient ou vient pas. Ils pourraient sinon se tourner vers une autre solution.
Alors, Ismaïla, je vous ai coupé la parole. Vous avez une autre question.
Oui. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain fait pour essayer de retenir son milieu de terrain?
Alors que compte faire le PSG pour conserver Verratti?
Bah pour l'instant, ils sont plutôt dans une attitude un peu dure de lui rappeler ses obligations, le fait qu'il a prolongé son contrat, qu'il a bénéficié des augmentations salariales très conséquentes.
Oui, parce que ce n'est pas la première fois que Verratti dit « bon, allez, j'aimerais bien quitter le PSG » et à chaque fois, la direction du Paris Saint-Germain signe un chèque plus conséquent pour qu'il reste.
Voilà, on lui rappelle tout ce qu'il doit au PSG. Il est arrivé comme un parfait inconnu il y a 5 ans. Aujourd'hui, il est un joueur très coté et très prestigieux. Donc Verratti est conscient de ça. En plus, il est entouré des proches de la direction du club. Là, dans ses vacances à Ibiza, il y a Camara qui était son ancien coéquipier, qui est aujourd'hui dans le staff technique. Il y a Maxwell qui pourrait rejoindre la direction du club. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être lui rappeler qu'il a probablement intérêt à rester au PSG, même si.
Enfin,
lui...
dans sa tête, visiblement, il a déjà quitté le Paris Saint-Germain.
Bah, disons qu'on peut comprendre qu'un jeune joueur de son âge, qui se voit promettre un rôle important à Barcelone, ait envie quand même de tenter cette aventure après 5 années passées au PSG, où le bilan en dehors des compétitions nationales n'est pas excellent. Donc, ça, on peut le comprendre. Après, il faut qu'il y mette les formes. Depuis quelques jours, il a évité des nouvelles provocations. On va voir comment s'organise la suite. Comme je vous le dis, Barcelone est intéressé, mais il n'est pas prêt à payer n'importe quoi, ni attendre tout l'été à avoir un feuilleton sur le dos avec l'histoire Verratti.
Donc on devrait en savoir plus assez rapidement alors.
Je pense que la solution devrait être trouvée au plus tard dans 15 jours.
Bon, on suivra ça dans Radio Foot International.
Absolument.
Évidemment, comme tous les jours, avec Annie Gasnier et tous les spécialistes du ballon rond. Merci beaucoup Alejandro Alente d'être venu répondre à Ismaëla, qui nous appelait donc de Fatagourma, au Burkina Faso, où il est 8h22. Tiens, puisque nous parlons du Burkina Faso, je vous rappelle que dans 20 minutes, nous parlerons de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, avec ce mystère encore et toujours autour du corps de l'ancien président, puisque les expertises réalisées sur sa dépouille présumée n'ont rien donné, elles n'ont pas permis d'identifier son ADN. En tout cas, ce rebondissement ne remet pas en cause le procès qui devra se tenir dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'espère la famille Sankara. On en parle ensemble, 33 9 693 693 70. Davy est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez des questions sur la nouvelle politique américaine à l'égard de Cuba?
Oh oui. Le président américain Donald Trump va abroger les décrets signés par son prédécesseur qui visaient le rapprochement avec Cuba. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette décision de Trump alors que 70% des Américains étaient favorables à ce rapprochement? J'ai une deuxième question, Juan.
Allez-y, profitez-en.
Ok. La Chambre de commerce américaine avait critiqué cette initiative. Pourquoi cette critique?
Alors, Laurence Nardon est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. Ce qu'il faut d'abord préciser, ça me semble important, c'est que Donald Trump, oui, il veut détricoter l'accord conclu par Barack Obama, mais il ne veut pas remettre en cause le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane.
Oui, il ne revient pas sur absolument tout ce que Obama avait mis en place comme réconciliation, mais il y a quand même un message très négatif qui est envoyé avec la résiliation de certaines avancées qui avaient été faites.
Ouais. Il veut, dit-il, un accord meilleur pour les Cubains et pour les Américains.
Oui, enfin je crois que comme le dit déjà à demi-mot dans sa question Davy, votre auditeur, que je remercie, en fait je pense que Trump il a des objectifs dans cette nouvelle politique vis-à-vis de Cuba. La première, c'est de revenir sur quelque chose que son prédécesseur Obama a fait, parce que là on a l'impression qu'il y a quand même une ligne de conduite permanente chez Trump qui est de défaire ce qu'Obama a fait, notamment sur le climat ou sur la politique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. On l'a vu sur plusieurs sujets, et Cuba c'est un nouveau moyen de rompre avec son prédécesseur. Et puis aussi, il y a des considérations de politique intérieure. Comme l'a dit votre auditeur, les Américains sont très majoritairement en faveur du rapprochement avec Cuba, sauf certains membres de la communauté cubaine aux États-Unis, notamment les personnes les plus âgées dans cette communauté cubaine qui n'ont toujours pas pardonné à la dictature de Castro. C'est vrai que Cuba n'est pas non plus un paradis politique, hein, faut le dire. Ouais. Et donc c'est pour faire plaisir à ces gens-là aussi qu'il revient sur cette politique d'Obama.
Ouais. Enfin, Trump veut surtout, visiblement, frapper le régime cubain et surtout l'armée cubaine qui détient une grande partie de l'économie du pays. Et notamment, on sait que les militaires, les généraux sont omniprésents dans le secteur du tourisme.
Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Là, ce que dit Trump, c'est ce que l'administration américaine a dit pendant 40 ans. C'est-à-dire, on va faire des sanctions contre Cuba, on va être dur avec Cuba pour précipiter la chute de ce régime communiste et favoriser le retour du pays à la démocratie. Et l'une des raisons pour lesquelles Obama était revenu en arrière, avait voulu se réconcilier avec Cuba, c'est que cette politique de sanctions n'avait jamais fonctionné, puisque les castristes sont toujours au pouvoir à Cuba.
Et donc Donald Trump a raison d'invoquer la défense des droits de l'homme en échange du rapprochement américano-cubain.
Il a raison moralement, parce que c'est vrai que c'est pas bien, il y a quand même des prisonniers politiques à Cuba, comme je le dis, c'est quand même pas un endroit magnifique pour les libertés d'expression. Néanmoins, depuis 40 ans, ça n'avait pas marché. Donc je pense que ce ne sont pas ses vraies motivations. Ses vraies motivations, c'est certainement pas les droits de l'homme. On sait que c'est un président qui n'en parle jamais, quel que soit le pays dont il parle. Donc c'est un prétexte, si vous voulez.
Et lorsque David nous demandait tout à l'heure pour quelle raison la Chambre de commerce américaine critique cette décision de Donald Trump à l'égard de Cuba, quelle réponse peut-on donner à notre auditeur ?
Alors c'est une excellente question parce que la Chambre de commerce, normalement, elle est plutôt conservatrice aux États-Unis et donc on pourrait penser qu'elle serait sur la même ligne que Trump. Mais ce que la Chambre de commerce veut défendre, c'est la croissance, c'est l'intérêt du business américain. Et c'est vrai qu'aux yeux de la Chambre de commerce qui veut favoriser le business dans tous les domaines, Cuba, c'était une opportunité pour le tourisme, pour l'île et pour les Américains, et pour le développement de tout un tas de coopérations commerciales. Et donc, ils voient d'un mauvais œil une politique qui va freiner, qui va entraver le développement des liens économiques entre les États-Unis et Cuba.
Une politique qui risque finalement de laisser la place à d'autres pays. C'est ce que craint la Chambre de commerce américaine en disant, attendez, si on s'éloigne de Cuba, tout ce potentiel touristique, en l'occurrence, puisqu'on parle du tourisme, ce sont d'autres pays qui vont pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup, Laurence Nardon, d'avoir été avec nous, responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. Je souhaite évidemment une bonne journée à David, qui nous appelait du Congo, Brazzaville. On avait prévu d'autres questions, mais c'est dommage, quand en 1 minute 30, on bâcle les explications. Donc, Taïrou, vous qui nous appelez de Bamako, ne vous inquiétez pas, on vous recontactera demain, ou sinon lundi, en fonction évidemment de votre agenda. 33 9 693 693 70. Appelez-nous. D'autres questions évidemment demain, mais vous continuez à nous appeler car dans 10 minutes, nous lancerons le débat sur le dossier Thomas Sankara après ce nouveau rebondissement dans le dossier de l'ancien président burkinabé, puisque la contre-expertise réalisée sur sa dépouille présumée n'a pas permis d'identifier son ADN. Et vous êtes nombreux sur la page Facebook à ne pas comprendre qu'on ne puisse pas identifier un ADN sur la dépouille de cet ancien président. Certains d'entre vous ont comme l'impression qu'on nous cache la vérité. C'est ce que nous dit Jude. Il nous dit la dépouille de Thomas Sankara en fait a vraiment été identifiée, mais pour des raisons d'ordre politique et amical entre les actuels et les anciens dirigeants du Burkina Faso, eh bien on fait traîner l'enquête en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que le test ADN n'a rien révélé. Sydney nous dit il faut qu'on nous explique à qui appartiennent les restes enterrés dans cette tombe. Il nous faut une communication claire. Pourquoi n'a-t-on pas identifié l'ADN ? Qu'on nous dise quel est le véritable problème dans cette affaire d'ADN. Donc beaucoup d'interrogations, si j'en crois vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Nous en parlerons ensemble juste après le point complet sur l'actualité. Merci de votre fidélité et on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité.